Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Et ce soir, c'est votre replay mensuel. Et c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité qui anime l'émission. Et je suis Vincent. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.assopalestine13.org. Merci à Sidi qui assure la technique. Lentement, les médias mainstream retrouvent l'omerta habituelle sur tout ce qui touche à Gaza et à la Cisjordanie. Les otages israéliens sont nommés alors que les morts palestiniens ou les prisonniers libérés ne sont que des chiffres. Mais la plus sûre information pour ces chaînes toutes entre les mains de milliardaires est le silence. Et quand elles traitent de la Palestine, c'est pour distiller des infos totalement pro-israéliennes, reprenant en boucle les communiqués de l'armée israélienne. Au point le plus haut de désinformation qui est le leur, dès que ce sujet est évoqué. Ce qui continue sont les massacres perpétrés non plus en bombardant des immeubles, mais des villages de toile, des hôpitaux de toile. Près de 200 journalistes palestiniens ont été tués par des tirs ciblés, donc intentionnels. À Paris, quelques 200 journalistes se sont symboliquement allongés sur les marches de l'Opéra Bastille, à mesure que les noms des journalistes palestiniens tués à Gaza étaient égrenés. Emmanuel Macron a, lui, reconnu lors de son retour d'Égypte qu'il était indispensable de reconnaître l'État de Palestine. En plaçant très vite un boulet au pied de sa proposition, assorti bien sûr d'un « oui mais ». Sinon, ce ne serait pas du Macron, avec des obligations pour les États arabes non signataires des accords d'Abraham de signer une reconnaissance pleine et entière d'Israël. Notre replay de ce mois portera sur des interpellations de l'ambassadeur d'Israël par la députée écologiste Sabrina Seibaï et le sénateur écologiste Akli Melouli s'adressant à ses collègues, lui met en cause la léthargie générale et il y a même un humoriste, Pierre-Emmanuel Barré, qui s'amuse des déclarations de Macron. Ronnie Broman compare Gaza à un camp de concentration. Sabrina Oise, pour parole d'honneur, s'entretient avec Francesca Albanese. Suite du replay avec LCP, qui reçoit David Chemla sous le titre « Gaza, la tragédie humanitaire ». Fin du replay avec le média, représenté par Paul Elek et Amin Snoussi. D'après des observateurs, Gaza serait devenue une fosse commune. Après les 15 secouristes gazaouis assassinés, après les familles regroupées sous des tentes et bombardées et délibérément, et les journalistes ciblés volontairement, Israël sème la mort dans l'enclave palestinienne, mais aussi en Cisjordanie. Le mot de la fin de cet édito pour l'historien Shlomo Sandre, qui nous indique ce qui aurait été la voie de la raison après la Shoah. Il aurait été plus logique de créer un État juif en Europe. Les Palestiniens ne sont pas coupables de ce que les Européens ont fait. Si quelqu'un avait dû payer le prix de la tragédie, ça aurait été les Européens et évidemment les Allemands, mais pas les Palestiniens. Nous allons écouter maintenant Sabrina Sebaï, députée écologiste, le sénateur écologiste Akli Mellul, Ronny Broman, ex-président de Médecins sans frontières.
Merci Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. Vous venez ce matin devant notre commission en tant que représentant d'un État qui commet nombre de crimes, dont plusieurs contre l'humanité. Intention génocidaire contre un peuple entier, rapport de l'ONU en novembre 2024. Torture contre les Palestiniens en détention, rapport de l'ONU d'août 2024. Campagne de famine ciblée à Gaza, rapport d'experts de l'ONU en juillet 2024. Colonisation considérée comme crime contre l'humanité, résolution de l'ONU septembre 2024. Je n'ose passer mon temps à partir à citer l'ensemble des résolutions de l'ONU que votre pays bafoue. Depuis 1947, c'est ainsi plus de 50 résolutions et condamnations qui n'ont pas été suivies d'effet. En 2022, vous étiez même les champions des condamnations pour non-respect des résolutions de l'ONU. Par ailleurs, dès 2024, vous étiez épinglé par la CIJ pour le mur de la honte de l'apartheid érigé illégalement en territoire palestinien. Monsieur l'ambassadeur, je vous le demande ici. Quand les drones snipent des enfants palestiniens à terre, est-ce que c'est combattre le Hamas? Quand vous armez les colons en Cisjordanie, que vous légitimez leurs exactions, est-ce que c'est combattre le Hamas? Quand vous annexez et occupez illégalement la terre des Palestiniens, est-ce que c'est combattre le Hamas? Enfin, quand vous enfermez plus de 700 enfants palestiniens dans les prisons israéliennes, est-ce que c'est combattre le Hamas? La liste est longue, monsieur l'ambassadeur, de tout ce qui est mis en place par le gouvernement d'extrême droite de monsieur Netanyahou, au prétexte du combat contre le Hamas, premier ministre lui-même d'ailleurs, sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Vous avez rasé la bande de Gaza, empoisonné ses sols, vous avez estropié et mutilé, souvent à vie, des milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées, quand ils n'étaient pas tués par dizaines de milliers sous les balles et les obus de Tsahal. Au mépris de tout droit international, mais également d'humanité la plus élémentaire, vous avez bombardé aveuglément, jetant ainsi sur les routes de l'exil plus d'un million de Libanais et occupant, là encore, sans aucune légitimité, le plateau du Golan en Syrie. Badinter disait à juste titre qu'on ne massacre pas des civils, on ne bombarde pas des hôpitaux sans qu'on commette des crimes de guerre. Monsieur l'ambassadeur, à partir de combien de morts palestiniens considérez-vous vos objectifs atteints? À partir de combien de colons installés illégalement en Cisjordanie sur le plateau du Golan considérez-vous vos objectifs atteints? À partir de combien d'expropriations à Jérusalem-Est considérez-vous vos objectifs atteints? Les écologistes n'ont jamais eu l'indignation à géométrie variable. Nous avons pleuré les Israéliens morts, blessés et pris en otage le 7 octobre. Et nous réclamons sans relâche la libération de tous les otages. Tout comme nous pleurons les victimes palestiniennes, car pour nous, ce ne sont pas de simples dommages collatéraux. Vos actes aujourd'hui prouvent, hélas, qu'aux yeux de votre gouvernement, la vie d'un Palestinien vaut moins que celle d'un Israélien. Et l'histoire vous jugera sévèrement quand il s'agira de répondre de vos actes. Je n'ai qu'une question, monsieur l'ambassadeur. Considérez-vous que vous êtes au-dessus du droit international? Je vous remercie.
À Gaza, c'est l'humanité elle-même qui s'effondre. Jamais dans l'histoire contemporaine, un peuple n'a été aussi méthodiquement isolé, affamé, bombardé, privé d'accès aux soins et aux secours. Gaza est aujourd'hui le théâtre d'une catastrophe humanitaire totale, sans précédent, rendue possible par l'inaction de la communauté internationale et le silence complice de nos grandes puissances. C'est la première guerre moderne durant laquelle aucun couloir humanitaire n'a été mis en place. La première durant laquelle des blessés graves ne peuvent être évacués. La première durant laquelle des enfants meurent de faim à quelques mètres d'entrepôts pleins d'aide humanitaire volontairement bloqués. La première durant laquelle des médecins revenant d'un territoire entament des grèves de la faim pour exiger un cessez-le-feu et un corridor humanitaire. Cette réalité interroge notre conscience collective. Quand des femmes accouchent au sol, sans anesthésie, quand des chirurgiens opèrent à la lumière des téléphones portables, sans eau, sans médicaments, quand l'odeur de la mort remplace celle de la vie. Alors, ce n'est plus une guerre, c'est un effondrement moral. Il y a plus d'un an, je disais déjà dans cet hémicycle, qu'à Gaza, on ne soignait plus, on amputait. Aujourd'hui, on n'ampute plus, on enterre. Et chaque jour qui passe sans un cessez-le-feu, sans aide, sans voix pour crier la réalité, est une trahison de nos valeurs fondamentales et de la dignité humaine. Dans ce contexte, il est temps de passer des discours aux actes. Car si, comme l'affirme le président de la République, notre pays est opposé à toute annexion de Gaza et de la Cisjordanie, alors la France doit soutenir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et reconnaître sans tarder l'État de Palestine. Unique levier pour imposer enfin le respect du droit international et stopper ce génocide. Ainsi, monsieur le ministre, Notre pays compte-t-il prendre ses responsabilités et exiger un cessez-le-feu immédiat, l'ouverture d'un corridor humanitaire, le respect des décisions des instances internationales et enfin, quand reconnaîtrez-vous l'État de Palestine ?
Ça fait un mois que plus un médicament, plus un gramme de carburant, plus une goutte d'eau, plus rien n'entre à Gaza. Il y a 15 jours de cela, une tuerie abominable a eu lieu, celle qui a pris pour cible 15 travailleurs humanitaires. Ils ont été pris pour cible, ils étaient parfaitement identifiés, des ambulances avec les gyrophares en action, les uniformes avec les surfaces réfléchissantes. Ils ont été délibérément assassinés par des troupes israéliennes. Jamais aucune guerre n'a provoqué autant de morts de secouristes, de membres de l'ONU. Gaza est aussi un charnier d'enfants. Jamais autant de femmes et d'enfants n'ont été tués au cours des 30 à 40 dernières années. Critiquer l'action israélienne, c'est être complice du Hamas, voire être un porte-parole des Israéliens dont le mensonge et la violence sont les ingrédients politiques fondamentaux de leur action. Gaza est en train de se transformer en camp de concentration, littéralement. L'asphyxie à laquelle sont soumis les Palestiniens de Gaza, les réduits dans lesquels ils sont confinés, le désespoir, la faim, l'angoisse, les bombes, il y a eu 1000 morts en l'espace de quelques heures. C'est un vol, une déportation, expulsion de gens qui vivent légitimement sur leur terre, dans leur maison, et à qui maintenant on dit, si vous voulez partir, la porte c'est par là. Les méthodes employées à Gaza commencent à être introduites en Cisjordanie avec des destructions massives, des expulsions de camps de réfugiés, une politique de terreur avec les colons et l'armée qui lynchent, qui détruisent, qui brûlent des récoltes, qui terrorisent des paysans palestiniens. C'est absolument abominable. Que l'on aille se montrer près de Rafah, c'est bien, mais que l'on prenne des mesures qui sont à la hauteur de la situation. On veut la disparition des Gazaouis, comme on veut la perte et la disparition des Palestiniens de Cisjordanie, c'est cela que l'Europe ne parvient pas du tout à empêcher, mais pas parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce qu'elle ne le veut pas.
Merci. Et maintenant, Sabrina Oaz, de Parole d'Honneur, s'entretient avec Francesca Albanese, déléguée de l'ONU pour la Palestine.
Bonjour Francesca Albanese, merci d'avoir accordé cet entretien à Parole d'Honneur. Alors vous êtes ici à Paris pour participer à une journée de conférence, les Assises pour la Palestine, donc bienvenue.
Merci.
Il y a un an, en mars 2024, vous avez soumis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU un rapport intitulé « Anatomie d'un génocide ». Et depuis, vous ne cessez de dire que ce qui se passe à Gaza est un génocide. Et ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous n'hésitez pas à dire que si on écoute les paroles du gouvernement israélien, si on écoute les déclarations officielles, eh bien, déjà on comprend qu'il y a une intention génocidaire. Alors, j'aimerais bien que vous reveniez sur ce point et puis que vous nous expliquiez aussi précisément ce que vous entendez quand vous dites, comme il y a quelques jours, qu'à Gaza, il s'agit d'un génocide déguisé en guerre.
Oui, d'abord, il faut dire que par rapport à il y a une année, je suis pas du tout plus la seule voix à dénoncer que ce qui se passe à Gaza est un génocide, c'est-à-dire une destruction intentionnelle d'un groupe, c'est-à-dire des Palestiniens en tant que tels, à travers des actes de tuerie, d'infliction de souffrance physique et mentale, à travers la création de conditions de vie calculées pour détruire. En fait, la bande de Gaza a été détruite. Il n'y a aucune question. C'est-à-dire, le problème, c'est que la bande de Gaza reste enfermée et personne n'y rentre, sauf des humanitaires qui sont eux aussi ciblés. Maintenant, il y a Amnesty International, la commission indépendante d'enquête sur Israël et Palestine, une autre commission, un comité d'investigation sur les pratiques israéliennes, qui est des Nations Unies. Plusieurs acteurs de la société civile ont analysé les actes de génocide qui se passent à Gaza. C'est-à-dire, je suis pas du tout la seule voix. Il y a des historiens experts de génocide israéliens qui dénoncent qu'il y a un génocide qui se passe. Il y a Amos Goldberg qui est Lee Mordecai. Je pense qu'ils sont les Erras Sigal aussi, les plus forts, qui disent que ça va jamais, on pourra jamais enlever cette tâche sur l'histoire et la mémoire d'Israël. C'est déjà fait. Et c'est pas qu'en le niant, on arrive à effacer tout ça. Le problème, c'est que malgré ça, une année passée, depuis la remise de mon premier rapport, j'ai entre-temps remis un autre rapport qui confirmait ce qui s'est passé à Gaza et alerté la communauté internationale qu'il y a un risque d'extension des actes génocidaires à la Cisjordanie. Mais le génocide ne s'arrête pas. Et voilà. Entre-temps, bon, bien sûr, il y a eu des attaques contre mon mandat et contre n'importe qui insinue qu'Israël est en train de commettre des crimes. Mais la question est, si ça, ce n'est pas un génocide, c'est quoi ? En fait, du point de vue légal, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Israël ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment il a tué 18 000 enfants ? Quels sont-ils, cette vie? C'est ça. Si ce n'est pas un génocide, c'est quoi? Parce que de toutes les façons, même on vit des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, on doit intervenir. Et la volonté d'intervenir parmi les États membres des Nations Unies manque absolument.
Justement, j'aimerais vous entendre sur la question du droit international. Cette dernière année, il y a eu la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à mettre fin à son entreprise génocidaire. Il y a eu aussi la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt, notamment contre Netanyahou. Et pourtant, Israël semble bénéficier d'une immunité. Et on est très nombreux à s'interroger sur le sens du droit international, puisqu'il est ouvertement bafoué, à s'interroger aussi sur le double standard entre le droit international quand il est appliqué aux États du Nord global et ceux du Sud global, et peut-être aussi à se demander et à en conclure que finalement, quand on se heurte aux intérêts des grandes puissances, eh bien le droit international est tout simplement impuissant. Qu'est-ce que vous répondez à ces interrogations-là ?
Alors, tout d'abord, permettez d'imaginer qu'il y a parmi les gens qui nous écoutent quelqu'un qui ne c'est rien de ce qu'est le droit international, de quoi on parle en fait. Le droit international, c'est un système de règles que les États membres se sont donnés pour réguler les relations entre eux et c'est ça le système droits humains, les relations que les États eux-mêmes ont vis-à-vis de leurs citoyens ou des gens qui vivent dans leur territoire. Voilà. Le droit international, ce n'est pas différent du droit au niveau national, c'est-à-dire c'est autant fort ou faible selon la volonté politique des exécuteurs, des gens qui sont au pouvoir, de le respecter. Tandis que la loi, pour être loi, pour avoir de la force, doit être objectivement élaborée, objectivement appliquée, interprétée. Et c'est ce qu'on voit au niveau international, c'est que ce n'est... Et c'est clair, c'est plus que clair en fait, c'est que le droit international n'est pas universellement appliqué. Il y a des doubles standards qui sont devenus un élément porteur du système international. Les règles sont appliquées selon qui les viole, selon où elles sont violées. Et à Israël a été permis de violer le droit international dès sa naissance. C'est-à-dire, c'est 115 ans d'impunité, surtout dans le territoire palestinien occupé. Israël a commencé à bâtir des colonies dès le début de son occupation. Pourquoi ça n'a jamais été arrêté? Et bien sûr, ça peut amener à l'effondrement total du système qui, bien ou mal, nous a protégés pendant 75 ans. Ça va terminer, ça va s'arrêter et ça se passe sous nos yeux.
Vous êtes confronté vous-même à des accusations d'antisémitisme qui sont régulières, qui sont assez violentes parfois, comme d'autres rapporteurs de l'ONU, comme des ONG aussi, et comme bon nombre de personnes qui dénoncent les violations du droit international par Israël. Qu'est-ce qui, selon vous, se joue dans cette mécanique d'accusation systématique d'antisémitisme?
Alors, tout d'abord, il faut dire, je rejette fermement l'antisémitisme parce que ça existe.
Bien sûr.
La discrimination contre les juifs en tant que juifs, comme ça existe l'islamophobie, l'arabophobie, le racisme anti-palestinien, ce sont des formes de discrimination et il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. C'est quelque chose qu'en Europe, on devrait trouver le temps d'affronter en tant que société, parce qu'on ne sait pas encore des faits de la propensité à, de la propension au racisme. Ceci dit, ce dont on m'accuse, c'est une autre chose. On m'accuse d'être antisémite pour, comme on accuse d'antisémitisme les rapporteurs spéciaux qui m'ont précédé, Michael Link, Richard Falk. Richard Falk est juif lui-même. Ouais. Et les accusations d'antisémitisme envers le mandat ne sont pas récentes. Et c'est parce qu'on ose critiquer l'État d'Israël. On ose demander de la justice parce que l'État d'Israël, de l'application de la loi, parce que l'État d'Israël viole le droit international. Moi, franchement, je m'en fiche que l'État d'Israël se proclame d'une certaine religion plutôt qu'une autre. Ça pourrait être un État bouddhiste, ou chrétien, ou agnostique. Ça ferait aucune différence. Le problème, c'est que comment on appelle un État qui occupe de façon illégale ce qui reste, ok, la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est contre le droit international. Il y a la Cour de justice internationale qui a ordonné à Israël de se retirer, de démanteler les colonies et d'arrêter d'enlever tous les militaires et d'arrêter de contrôler et exploiter les ressources naturelles de la Palestine et d'offrir des réparations aux Palestiniens pour tout ce qu'ils ont souffert pendant presque 60 ans d'occupation militaire. C'est ça le problème. Et Israël pratique aussi de la ségrégation raciale et de l'apartheid. Ça, c'est le système international qui le dit. C'est la Cour de justice internationale. Devant ça, est-ce que la Cour de justice internationale est antisémite? Bien sûr que non. Ça, c'est pourquoi Israël devrait être au-delà et au-dessus des normes. Mais c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on confond un peu les choses et même la vérité est devenue un acte révolutionnaire. Mmh. Voilà. Mmh.
Justement, j'aimerais qu'on aborde la question des médias. Nous, on est un média autonome et on est très critique de la façon dont les grands médias traitent la question palestinienne. Je sais que vous aussi, vous êtes très critique des grands médias. Vous avez même déclaré que leur rôle dans la défense active d'un État génocidaire est sans précédent. Mmh. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur un argument précis qu'on entend partout dans les grands médias pour justifier les actions d'Israël. C'est l'argument du bouclier humain. Hein, oui, mais le Hamas utilise la population comme bouclier humain. Alors, j'aimerais que vous posiez deux questions. Ouais. Qu'est-ce que dit le droit international sur cette question du bouclier humain? Et puis, plus largement, pourquoi vous avez appelé à des enquêtes, à des investigations sur la responsabilité des médias dans ce qui se passe à Gaza?
Vous anticipez ce que j'aurais dit, parce qu'en fait, le thème du bouclier humain est parfait pour décrire l'hypocrisie des médias. Parce que vous savez, déjà, ça, ce n'est pas la première guerre contre Israël, d'Israël contre la bande de Gaza. Que c'est déjà horrible, parce que selon le droit international, on ne peut pas déclarer une guerre contre une partie du territoire qui est occupée. Israël dit que la bande de Gaza n'est plus occupée depuis le 2005. C'est pas vrai, parce que Israël a enlevé les colonies, les colons, et l'a déplacé en Cisjordanie. Mais il a continué à garder le contrôle sur la bande de Gaza. Et il a lancé des guerres le 2008, le 2012, le 2014, le 2021, le 2023, 2022, 2023. Et pendant toute cette guerre, il a accusé les Palestiniens, savoir le Hamas, d'utiliser des boucliers humains. C'est quoi le bouclier humain? Le bouclier humain, c'est prohibé, c'est une pratique prohibée selon le droit international humanitaire. C'est-à-dire, dans les situations de conflit, les combattants ne se peuvent pas cacher ou utiliser des civils, des structures civiles ou des civils en tant que tels pour avancer ou pour décourager l'action militaire. Ça, utiliser un être humain comme un bouclier, c'est prohibé par le droit international. Mais c'est-à-dire, on ne peut pas utiliser le thème du bouclier humain comme si c'était, vous savez, dans les situations de guérilla urbaine, la population civile n'est pas toute considérée un bouclier humain. collective. Ce n'est pas le cas. En fait, le droit international est très, très spécifique à ce sujet. Là, et alors, il y a plusieurs commissions d'enquête qui ont démontré qu'Israël misapproprie ce concept de droit international, dit que sans donner les preuves que les Palestiniens, le Hamas, les autres résistants utilisent des boucliers humains. Et c'est jamais, jamais prouvé. Mais je dis une chose de plus. C'est deux choses en fait. Que cette fois-là, il y avait déjà des preuves qu'Israël utilise des boucliers, les Palestiniens en tant que boucliers humains. Par exemple, pas seulement dans la bande de Gaza, mais dans la Cisjordanie, quand ils font exploser des maisons, ils envoient d'abord les Palestiniens à perlustrer avant de rentrer. Et la même chose, on l'a vu aussi dans les derniers mois, des êtres humains, des Palestiniens liés sur des voitures en rentrant dans les villages, ou bien des détenus amenottés et avec les yeux couverts au centre d'un village palestinien qui était en train d'être attaqué. Ça, c'est de l'utilisation des boucliers humains. Alors, d'abord, on ne parle pas, on donne beaucoup d'attention, sans investigation, à ce qu'Israël dit, mais on ne rapporte pas ce qu'Israël fait. Allez, alors il y a l'amplification du mensonge où il n'y a pas les preuves et il y a le silence sur un fait qui est complètement documenté. Plus que ça, il y a eu une investigation qui a été conduite par, je pense que c'était Haaretz, il y a quelques jours, qui disait qu'il y a une communauté d'esclaves. Les Palestiniens sont capturés et gardés comme des esclaves pour devenir, être utilisés comme des boucliers humains à Gaza, pour entrer dans des bâtiments qui peuvent avoir des bombes mises par le Hamas, des autres résistants, ou dans des tunnels. Vous voyez la gravité de... Alors, qu'est-ce que je pense des médias? Il y a besoin au niveau national, au niveau régional, ça va difficilement se passer parce qu'il n'y a pas un organisme... Bon, l'Union européenne, c'est clair qu'il a décidé de... le rôle, jusqu'à présent, on a joué un rôle vraiment triste dans tout ça. En continuant à converser avec l'État d'Israël comme si rien ne s'était passé. Mais au niveau national, et surtout j'encourage les médias indépendants à lancer, et aussi la société civile, à lancer des enquêtes véritables sur le rôle que les médias ont joué sur la négation de la vérité, la négation des faits et la construction de faits alternatifs à ce qui s'est passé pour justifier ce génocide, en fait.
Oui. Vous en parliez tout à l'heure, la question de la colonisation, elle est au cœur de la question palestinienne. Israël établit colonie après colonie, mais dans l'espace public et aussi dans les médias, on entend souvent des choses... complètement fausse sur ce sujet, sur ce qu'implique la décolonisation de la Palestine, sur ce que ça signifie aussi concrètement dans le cadre du droit. Alors j'aimerais bien que vous nous éclairiez sur ces points, sur le droit à la décolonisation pour les Palestiniens du point de vue du droit international.
Oui, la question, je l'ai affrontée lors de mon premier rapport portant sur le droit à l'autodétermination. Parce qu'en fait, la colonisation est prohibée selon le droit international. Et il y a plusieurs gens qui disent « Oh, mais il n'y a pas de normes contre le colonialisme de dépeuplement. » Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, l'article 49 de la Convention de Genève est spécifique dans la prohibition du dépeuplement d'un territoire occupé en le repeuplant avec la population de l'État occupant. Et c'est ce qu'Israël a fait. Il a profité d'une occupation militaire pour avancer l'acquisition de ressources naturelles et du territoire pour créer des colonies. Aujourd'hui, ils sont 300, les colonies dans la Cisjordanie, habitées par 800 000 colons. Et c'est clair que ça, c'est une violation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, c'est-à-dire du droit à se déterminer, mais c'est d'abord le droit à exister en tant que peuple et à se déterminer en tant que peuple dans ce qui reste de la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le Jérusalem-Est. Vous voyez, il y a même eu une reconnaissance que ce droit doit s'exprimer dans une forme étatique, dans un État palestinien souverain et indépendant. Pendant les derniers 30 ans, tandis que les États membres, y inclut la France, parlaient de l'État palestinien, on peut vraiment, c'est très difficile de l'organiser aujourd'hui, de l'avoir aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de terre. Tout a été pris par Israël, sauf si on fait ce que la Cour de justice internationale a décidé le mois de juillet 2024. Il a dit, Israël doit terminer son occupation militaire, enlever, démanteler les colonies et arrêter. Voilà. Et il n'y a rien sauf que ça qui peut sauver la possibilité d'exister en tant qu'État pour les Palestiniens, pour les Israéliens. Sinon, il n'y a pas d'alternative que donner le droit de citoyenneté à toutes et tous. Sauf si on veut continuer, sauf l'alternative est bien sûr qu'Israël continue à commettre le génocide avec le but d'aboutir à son nettoyage ethnique de la Palestine.
Vous revenez d'Allemagne il y a quelques jours, quelques semaines, et vous avez déclaré à ce moment-là que l'activisme antigénocidaire avait suscité une réaction trop violente pour être ignorée. Comment vous regardez cette répression monumentale qui touche les voix pro-palestiniennes en Europe, en France, beaucoup, en Allemagne, aux États-Unis?
Le fait qu'on ne peut même plus s'exprimer en soutien de la Palestine, c'est un signe, mais les gens se rendent compte d'où on est, qu'on ne peut plus organiser des conférences, il y a des gens qui sont punis pour avoir parlé de Palestine, pour avoir critiqué l'État d'Israël. On est déjà dans l'illibéralisme, on a déjà dépassé toutes les limites. Il y a des pays comme l'Allemagne où c'est épouvantable, où on risque de se faire arrêter. Je ne connais pas tous les détails de la situation en France, mais c'est très, très grave. On a prohibé des manifestations, des conférences. On a arrêté des gens qui amenaient qui portaient la kéfia. Mais c'est quoi? Mais vraiment, c'est obscène. Et la chose qui me laisse perplexe, c'est vraiment le manque de compréhension parmi les gens, que ça, ce n'est pas quelque chose qui est limité aux Palestiniens, aux Arabes. Ça, c'est une question qui touche toutes et tous dans une société. Et regardez combien de Juives et de Juifs sont en train de protester contre ça. Moi, je sais qu'en France, il y a des communautés, comme en Italie, il y a des communautés juives très conservatrices, qui sont disposés à défendre Israël même devant la mort de 18 000 enfants. Ça pèse sur leur conscience. Vraiment, c'est horrible ce qu'ils sont en train de défendre aujourd'hui. Mais les autres Français et Françaises, où sont-ils? Où sont-elles? Pour moi, la France a été toujours le pays le plus avancé avec sa société civile et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas.
Merci.
Merci. Donnons la parole à LCP, qui interroge David Chemla, ex-président de la Paix Maintenant, et le docteur de Gaza, Raphaël Pitti.
Chemla, vous suivez ce conflit quotidiennement, et particulièrement la société civile israélienne. Évidemment, reconnaître cet État, c'est refuser que les Palestiniens ne disparaissent, parce qu'on voit dans quelle situation humanitaire ils sont ce soir, ils sont aujourd'hui. Benjamin Netanyahou est furieux. Et les Israéliens, qu'est-ce qu'ils en disent ?
Les Israéliens sont divisés sur ce sujet comme sur d'autres, hein, mais ce n'est pas le plus important pour eux. Ils sont encore dans cette situation de l'après 7 octobre, dans le traumatisme encore de cette guerre, des otages qui sont encore détenus, dont on espère la libération, et ils sont en lutte aussi, majoritairement, en tout cas plus que 70% de la population le manifeste dans les sondages, contre ce gouvernement à cause des projets de réforme judiciaire qui sont en train de remettre sur le devant de l'actualité.
Donc c'est ça qui vraiment les
c'est ça qui aujourd'hui les mobilise.
La Cour suprême,
et également,
le
à côté
chef
de
des
ça,
services secrets israéliens que Netanyahou veut limoger.
Voilà, et ils, effectivement, donc Netanyahou veut limoger le chef des services secrets. Ça a été, cette décision a été rejetée par la Cour suprême qui dit que pour l'instant il n'en a pas le pouvoir, qu'il peut, parce qu'il n'a pas voté, etc. Donc c'est ça le sujet. Par ailleurs, il y a de plus en plus de voix aussi qui demandent la fin de la guerre. Cette guerre dont les deux objectifs définis par le gouvernement étaient éradication du Hamas et libération des otages. Ils n'ont pas réussi à éradiquer le Hamas, parce que 18 mois après, il y a encore une force du Hamas qui sont effectives et qui se battent. Et les otages, la seule façon de les avoir libérés, c'était par des négociations. Donc la population en est consciente et elle demande d'arrêter ce conflit. Ces jours-ci, il y a eu une pétition signée par 1000 aviateurs et maintenant qu'ils sont d'autres forces militaires réservistes qui vont dans ce sens pour demander au gouvernement d'arrêter la guerre. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas des déserteurs, ils ne refusent pas d'aller se mobiliser si nécessaire, mais ils disent c'est une guerre qui devient de plus en plus à des fins politiques.
Et cette idée d'une logique au fond de normalisation implicite, sans remettre les accords d'Abraham sur la table, que certains pays, et non des moindres, comme l'Arabie Saoudite, pourraient reconnaître Israël en échange d'une reconnaissance de la Palestine par la France, vous, est-ce que c'est un minuscule petit pas vers une forme de solution politique ou le début de quelque chose d'autre, ou vers un cessez-le-feu, parce que c'est le préalable, ou au fond, ça ne change strictement rien?
Vous savez, on connaît le problème, au fait, on en a parlé tout à l'heure, la solution des deux États est la seule, parce que toute autre alternative est dramatique et pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Donc, la question, comment y arriver? Il y a deux blocages, un gouvernement de droite et d'extrême droite en Israël qui n'en veut pas, et puis, du côté palestinien, le Hamas et les extrémistes palestiniens qui n'en veulent pas, qui font tout pour saboter toutes les possibilités. Donc, effectivement, il faut trouver les leviers pour agir sur les deux côtés. Si on arrive à, effectivement, en profitant de la situation à Gaza, de sortir le Hamas de l'équation,
de mettre
en place une autorité palestinienne ou des Palestiniens venus peut-être de la diaspora ou d'ailleurs qui prendraient en main la gestion de la population gazaoui. Évidemment, le plan de Trump est complètement non seulement obscène, mais
on va y revenir parce que pour la première fois il y a deux semaines, il y a quelques centaines
de gazaouis. Et de créer une nouvelle dynamique, je pense que la société israélienne la suivrait.
Allez, en attendant, c'est la désolation à Gaza pour se figurer les choses en images, les conséquences du blocus humanitaire et la reprise des bombardements. Marco Pommier avec les équipes de l'AFP.
Une ambulance transportant des corps vers l'hôpital de Khan Younes après la dernière frappe israélienne survenue la nuit dernière dans le sud de la bande de Gaza. 10 morts, 10 membres d'une même famille, dont 7 enfants, selon la défense civile palestinienne. Au total, plus de 50 000 Gazaouis ont perdu la vie depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. Des bombardements incessants et des habitants qui pleurent leurs proches.
Nous sommes des innocents, des enfants qui n'ont rien fait de mal et des personnes âgées qui vivent dans des tentes. Pourtant, les Israéliens continuent de tirer des missiles sur nous.
Tsahal a repris son offensive militaire mi-mars après 2 mois de trêve, imposant un blocus total au territoire. De quoi raviver le spectre de la famine pour 2,5 millions d'habitants. Ici, dans le nord de la bande de Gaza, des Palestiniens font la queue à un point de distribution d'aide de l'ONU.
Il n'y a plus de farine, plus de boulangerie, plus rien. Et le prix d'un sac de farine a atteint $120. Où allons-nous trouver ça?
Nous souffrons beaucoup. Il n'y a pas de nourriture sur les marchés. Les légumes sont chers et les gens n'ont pas d'argent pour les acheter.
La faim, la peur, survivre plutôt que vivre, dans un territoire totalement ravagé, avec des ruines à perte de vue.
Et rebonsoir Raphaël Pitti, vous qui vous êtes rendu dans l'enclave palestinienne il y a quelques mois. Quelles sont précisément et concrètement les conséquences de ces 40 jours de blocus? L'État hébreu dit qu'il reste des stocks de médicaments et de nourriture. Peut-on les croire?
Non, c'est faux. Non, totalement. Nous avons 7 centres de primaire à Gaza, répartis entre le nord et le sud. Et à l'heure actuelle où je vous parle, nous n'avons pratiquement plus de médicaments pour soigner la population. Au même temps, nous essayons de distribuer de l'eau potable. Nous en distribuons 17 000 litres à la fois dans le sud et dans le nord. Et bien, nous avons vraiment des difficultés d'approvisionnement puisque les Israéliens ont encore détruit une usine de désalinisation de l'eau. Et donc, nous avons un gros souci d'approvisionnement pour ce qui concerne l'eau, l'eau potable à la population. Et donc, vous savez, j'entends bien la reconnaissance de l'État d'Israël, j'entends bien tout ça, mais ça ne répond pas à la question immédiate où il y a une population qui est maintenant terrorisée, au point que les gens, les bombardements ayant lieu surtout la nuit, les gens dorment sous leur tente, habillés avec un sac à dos près d'eux pour pouvoir s'échapper éventuellement si tel était le cas, si la violence était à se rapprocher.
Que vous disent vos contacts sur place concernant les enfants victimes, notamment ?
Oui, je disais, la question fondamentale, c'est le cessez-le-feu immédiat et le réapprovisionnement. Cette population, depuis 18 mois, elle est violentée, elle est martyrisée. Il y a une nécessité de réponse et d'action immédiate. La reconnaissance au mois de juin, de manière aléatoire, à condition que d'autres pays suivent, tout ça c'est pour plus tard. Dans l'immédiat, arrêtez cette guerre, arrêtez ce bombardement, arrêtez de terroriser, arrêtez de tuer.
Merci. La suite avec Amina Kalash du Média, qui reçoit Paul Elek, politologue sur cette chaîne, et Amine Soussi, collaborateur parlementaire chez LFI, sur le thème « Israël tue les journalistes palestiniens ».
Bonsoir Amine, bonsoir Paul, bonsoir, merci d'être bonsoir. Avec nous ce soir. Alors, certains médias mainstream ont enfin l'air de se réveiller sur le sujet. On l'a vu avec cette tribune. Est-ce que, selon vous, cette tribune suffit ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité éditoriale dans la manière de couvrir ce qui se passe en Palestine ?
En fait, le problème général de la couverture du génocide en cours à Gaza et des incursions coloniales en Cisjordanie et de la situation générale en Palestine, c'est le fait que le journalisme en France est dépossédé de plusieurs questions éthiques et déontologiques. On l'a vu avec Mohamed Qassimi sur TV5 Monde quand il a été censuré et attaqué par sa direction pour avoir rapporté des faits sur la situation en Palestine. On l'a vu cette semaine avec Quentin Miller qui a annoncé qu'il partait de Marianne, notamment lié au fait que la direction ne voulait plus une ligne éditoriale qui couvre factuellement ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Ce qui nous donne un indice sur comment ça se passe dans les rédactions. Moi, je ne pense pas que les journalistes des médias mainstream sont des mauvais journalistes ou ont une conviction idéologique forte qui serait pro-israélienne. Moi, je pense qu'ils s'auto-censurent, notamment parce qu'il y a un message renvoyé, à savoir, sur ce sujet-là, tu peux mettre en danger ta carrière, tu peux mettre en danger ta crédibilité en tant que journaliste, que la position factuelle n'existe pas, que si tu dis qu'il y a un fait colonial, qu'il y a des massacres réguliers, tu es en train de prendre position en faveur de la Palestine. Alors qu'en réalité, tu es en train de faire de la manière la plus factuelle possible ton métier.
Moi, tu as travaillé comme journaliste. Moi, du coup, je serais un peu moins prudent. Je pense qu'une partie notamment de l'audiovisuel français, a fonctionné comme un relais de la propagande de guerre israélienne. C'est absolument clair systématiquement, la reprise du vocabulaire, des éléments de langage de l'armée a été la manière dont la France médiatique de la télévision et dans une certaine mesure des radios a parlé de la situation sur place. On a eu des ergotages pas possibles sur un certain nombre de mots et une sous-estimation réelle de ce qui s'est passé. Sur la question des journalistes, pareil. Je rappelle que c'est quand même pour une partie de leur figure de proue, donc là je parle des éditorialistes, moins peut-être que les journalistes, une corporation absolument détestable qui refuse qu'on mette sa tête sur un tract, crie au scandale à chaque fois qu'une parole verbalement trop violente pour eux est mise sur un plateau de télé et qui par contre n'ont rien dit. Lorsqu'on a l'État colonial israélien qui assassine jusqu'à 200-220 journalistes palestiniens sur place.
Certains même de dommages collatéraux.
Absolument, alors qu'on sait que c'est une cible. On peut rappeler, il y a plein de cas individuels. Je pense à Shirin Abu Akleh qui avait été assassinée d'une balle dans la tête par l'armée israélienne qui avait nié les faits, puis reconnu. Hein, Israël est capable de reconnaître le fait qu'il tue des journalistes parce que de toute manière, ils savent bien que derrière, il y a une très faible solidarité. Là, on parle quand même du fait que dans les dernières années, les trois quarts des journalistes tués dans le monde sont le fait de l'État colonial israélien. Et pas un mot.
Il y a une lecture raciale aussi de cette question. Ce ne sont pas des journalistes car ils sont palestiniens. Ce ne sont pas des journalistes car ils sont arabes. Il y a une chroniqueuse du Point qui l'a dit. Il n'y a pas de journalistes en Palestine. Donc finalement, si c'était un journaliste qui était correspondant de RFI, qui était expatrié, qui venait là-bas pour couvrir, on aurait plus de facilité à s'émouvoir dans la presse audiovisuelle pour lui que pour des journalistes palestiniens qui travaillent pour des rédactions arabophones ou qui travaillent pour des rédactions qui ont une ligne éditoriale qui luttent contre le colonialisme israélien. Donc en fait, il y a même une négation de leur respectabilité en tant que journaliste aux journalistes palestiniens. Et là, je te rejoins, parce que ça, c'est exactement ce que cherche à faire Israël. Hein. C'est l'objectif d'Israël, c'est de nier que des Palestiniens puissent accéder au journalisme, qu'ils puissent eux-mêmes porter l'information sur ce qui se passe. De facto, en invisibilisant les journalistes palestiniens, on sert de relais à la propagande de guerre israélienne.
Et c'est aussi ce dont a été taxé Al Jazeera, qui a été fermé depuis. On leur a dit qu'ils ne faisaient pas du journalisme, mais pourtant, c'est la seule chaîne qui justement a retransmis en direct ce qui se passait en Palestine. Ils ont été contraints de fermer leur bureau à cause de l'armée israélienne.
Et dont des journalistes ont été, encore une fois, assassinés de sang-froid. Hein, parce que, encore une fois, ce sont des cibles.
Même en direct.
C'est absolument terrifiant. Je suis d'accord sur cette lecture raciale. Je dirais qu'on peut même pousser dire que la nationalité suffit plus. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème, c'est qu'on a vu d'abord des Palestiniens, d'abord des Arabes avant de voir des journalistes, niant le fait que leurs informations seraient fiables et ça. Ce qu'ils n'auraient jamais fait dans le cadre d'un journaliste espagnol, ce que vous voulez. Mais en plus, si tant est qu'ils aient une double nationalité ou une nationalité française, on l'a vu pour le cas des travailleurs humanitaires, qui sont également des personnels qui doivent être protégés en vertu des règles du droit international. Et ben, en fait, s'ils ont une nationalité occidentale, mais que d'une manière ou d'une autre, il y a une possibilité de raciser leur profil, alors voilà, ils passent du côté de ceux dont on ne peut se soucier, comme, il faut le rappeler, l'ensemble des Palestiniens, qui ont été décrits comme des victimes collatérales, des chiffres, on avait vu les relais des fake news de la propagande de l'extrême droite israélienne sur les bébés, égorgés. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'images d'enfants massacrés, amputés, genre sans anesthésie. Et là, pas un mot, pas quelques reportages de temps en temps pour se donner l'impression d'avoir fait quelque chose. Donc oui, il y a un vrai problème de la presse, et c'est aussi lié, je pense, au fait qu'il y a un problème de courtisanisme dans le journalisme français et qu'en fait, il y a eu de la part du pouvoir politique français, il a pris fait et cause pour l'État colonial israélien. Quand la présidente de l'Assemblée nationale dit « nous sommes pour le soutien inconditionnel à l'État d'Israël », ça veut bien dire ce que ça veut dire, inconditionnel, quelle que soit la condition de la situation réelle. Alors elle est soi-disant revenue sur ces mots dernièrement, mais enfin, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que la France, via cette sphère médiatique, cette bulle médiatique qui est un filtre, parce que je ne crois pas que ça soit vrai dans la population générale, elle a vécu ça comme un moyen de faire corps avec l'État d'Israël, parce qu'on a exprimé tout simplement la solidarité coloniale du pouvoir.
Et est-ce que vous pensez avec justement ce genre d'initiative qu'on salue, on n'est pas, négatif, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait une autre narration, justement que les choses peuvent changer, en tout cas, j'entends par là dans les médias mainstream, pas dans les médias indépendants qui ont, fait beaucoup pour parler de ce génocide?
Honnêtement, je l'espère, mais j'ai du mal à y croire. Je n'imagine pas, après une année et demie de mobilisation populaire et de manifestations régulières et d'images insoutenables qu'on a vues tous les jours sur le génocide en cours à Gaza. On a eu des témoignages unanimes de toutes les ONG, de tous les experts qui se sont mobilisés sur cette question des organisations internationales qu'on critique et qu'on est de manière légitime, mais qui ont été très clairs sur le sujet. Si avec tout ça, toutes les rédactions mainstream n'ont pas pris la mesure de la situation à Gaza, c'est qu'ils ne le veulent pas. C'est qu'ils n'ont pas envie de le faire. Et s'ils n'ont pas envie de le faire, c'est une ligne éditoriale. La ligne éditoriale est de considérer que, par solidarité coloniale, comme l'a dit Paul, mais aussi parce que Israël serait le seul allié stable qu'on peut obtenir au Moyen-Orient, qu'il y a une vision aussi très occidentalisée de la chose où on se dit que, certains l'ont dit d'ailleurs, ils ont dit que la lutte d'Israël contre le terrorisme est semblable à ce que l'on a vécu en France dans la lutte contre l'islamisme radical, etc. Donc il y a vraiment une image bestiale des Palestiniens qui sont tous des terroristes en puissance ou en devenir, et Israël fait le travail à la place des Occidentaux dans l'image que les dominants ont installée dans la ligne médiatique. Et c'est très difficile d'imaginer autre chose parce qu'on continue de le voir. On a des représentants de l'armée israélienne qui sont invités sur des plateaux pour débattre, alors qu'ils sont accusés de crimes de guerre, d'un potentiel génocide en cours, et ils sont invités à débattre, à discuter avec des journalistes sur un plateau, des porte-parole de l'armée, d'une armée en train de massacrer des enfants et des hommes et des femmes palestiniens tous les jours. Donc rien que ça, c'est un signal envoyé sur le fait que la ligne éditoriale ne risque pas de bouger. Donc ce rassemblement, c'est très positif et c'est très bien que les journalistes se mobilisent, mais il faudrait une pression bien plus accrue de la part de ceux en charge de faire respecter la déontologie journalistique pour espérer les voir changer.
Non, mais effectivement, on peut pas s'opposer à une initiative. Hein. Toutes les initiatives politiques qui visent à mettre la lumière sur la situation sont intéressantes. Ce qu'il faut pour que ces types d'initiatives soient intéressantes, c'est qu'il ne s'agisse pas d'une défense corporatiste, hein, uniquement de « nous sommes journalistes, nous devons être protégés », parce qu'ils ne sont pas les seuls. Et ils ont raison, les journalistes doivent être protégés, comme les travailleurs humanitaires, comme les envoyés diplomatiques, comme les personnes qui travaillent dans le soin. Je rappelle que la semaine dernière, il y a encore des soignants qui ont été assassinés, encore une fois le mot je le pose, dans la bande de Gaza, que l'Israël a nié les faits, puis qu'on a retrouvé une vidéo qui montrait bien qu'on a visé des ambulanciers avec les gyrophares allumés et qu'on les a ensuite enterrés dans un charnier comme ça, que l'on a dissimulé le long d'une route. Donc la question de la défense de la profession de journaliste est intéressante à partir du moment où aussi elle élargit au-delà des médias indépendants, de ceux qui se sont toujours souciés, la question du traitement journalistique. Expliquer qu'effectivement, il y a une volonté systématique d'Israël d'empêcher de voir ce qui s'y passe, une volonté systématique de cibler les journalistes palestiniens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour comme palestiniens, ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est ça qui pourrait permettre que ce soit utile. Maintenant, voilà, encore une fois, le mot clé, et on en reparlera sans doute dans la seconde partie, oui, c'est le mot sanction. Et oui, ça, il faut qu'on en parle sérieusement.
Et quand on écoute aussi certains médias, on a l'impression que, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est comme si, en tout cas, la Palestine n'avait pas le droit d'exister. Enfin, c'est pas pour rien qu'on vise, comme on l'a répété, les journalistes, le personnel soignant, en fait, toutes les personnes qui essayent justement de raconter leur histoire, de donner une voix. Ça pose aussi question sur qui détient aussi les médias, qui, dans les rédactions, on a vu ne serait-ce que les différences entre les temps qu'on va donner, qu'on a donné par exemple pour le 7 octobre, et tout ce qui se passe là depuis un an et demi.
Bah effectivement, les médias sont en France possédés par des milliardaires qui ont pour intérêt de promouvoir l'agenda réactionnaire. Or, ce qui s'est passé, c'est que la situation en Israël a permis une politique intérieure de répression des voix progressistes. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça la connexion. C'est qu'en gros, à partir du moment où il y a eu des manifestations, elles ont été interdites. Il y a eu utilisation d'amendes pour repousser les gens. Puis il y a eu ensuite l'instrumentalisation de la procédure d'apologie du terrorisme pour pouvoir faire taire des voix de syndicalistes, de personnes militantes engagées, et que en fait ça a été une police intérieure, c'est-à-dire qu'en gros c'est un rappel à l'ordre à ceux qui se sentaient favorables aux Palestiniens, solidaires de son sort. On racontait à ces gens-là, ne vous inquiétez pas, faites attention, oui, parce que vous êtes l'ennemi intérieur, parce que si vous êtes de gauche, vous êtes islamo-gauchiste. Si vous êtes musulman, vous étiez déjà désigné comme l'ennemi des politiques islamophobes menées par le pays, etc. Et donc, c'est un rappel à l'ordre à cela. Et à ceux qui, au contraire, sont déjà engagés dans un pacte réactionnaire, pacte raciste, par le vote Rassemblement national, par tout le développement de la pensée de préférence étrangère, etc. Tout la xénophobie déversée dans le champ. Et on leur disait, c'est un rappel à l'ordre, ne soyez pas solitaires d'un peuple qui finalement sont aussi des Arabes, sont aussi des musulmans, sont aussi des gens que l'on désigne comme ennemis dans votre pays. Et ça permet de fracturer le champ politique en deux camps. Et cette vision schmittienne de la politique, séparer l'ennemi de l'ami, c'est la voie pour l'autoritarisme. Or, on a bien vu qu'un certain nombre de patrons de presse, notamment Bolloré, mais pas que, ont des agendas clairement identifiés d'aider le mouvement réactionnaire à s'implanter électoralement, idéologiquement dans le pays. Et c'est ça qu'il faut comprendre, le lien entre la déformation médiatique et la réalité à observer.
Aussi, la cause palestinienne, on l'a observée pendant des années dans le monde arabe. C'est un vecteur de politisation. Ça veut dire que c'est souvent par sentiment de solidarité dans le monde arabe. Elle inquiète, par exemple, les régimes autoritaires qui ont pu exister dans les décennies passées. Et dans plusieurs cas dans le monde arabe, on interdisait les manifestations pour la Palestine parce qu'on avait peur de cette politisation de la jeunesse, etc., qui commençait à s'organiser et qui pouvait se saisir du sujet palestinien pour ensuite aller sur d'autres sujets, d'autres luttes qui pourraient inquiéter le pouvoir en place. Je pense qu'on observe le même phénomène en France à travers la criminalisation de la cause palestinienne. Paul vient d'en parler avec énormément de représentants politiques et syndicaux qui ont été frappés de cette accusation d'apologie du terrorisme parce que, et uniquement parce que, ils ont exprimer leur solidarité avec la lutte des Palestiniens pour avoir un État et pour avoir le droit de vivre sur leur terre historique. Et en fait, ce mouvement qui s'est installé de répression contre les voix politiques, c'était nécessaire pour l'extrême droite et les réactionnaires parce qu'ils avaient une peur réelle de cette politisation à travers la Palestine.
Merci Amine.
Et pour terminer, l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré.
Non, arrêtez ! Arrêtez ! Non ! Non, arrêtez ! Arrêtez ! Vous ne savez pas ! Vous ne savez... Si ça se trouve, je vais dire que je suis d'accord avec Emmanuel Macron ! Vous auriez l'air bien sot ! D'autant plus que pour une fois, eh ben, je suis d'accord avec Emmanuel Macron ! Oh, ah, bon. Vous avez l'air bien sot ! Macron, il a dit que la France était prête à reconnaître l'État palestinien. Il était en Égypte, il a rencontré des réfugiés de Gaza, ça l'a tout chamboulé, bichette. Il était là, mais c'est horrible! Mais c'est horrible ce qui se passe, mais Free Gaza! On a une Palestine, mais réveillez-vous! Mais ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de maison, plus d'hôpitaux, plus de jambes! Mais où c'est qu'ils vont mettre leur Weston? Sur leurs mains! Mais quel génie! On a vraiment de la chance d'avoir un président aussi vif. Il a parfaitement compris la situation seulement 2 ans après le début de la situation. Et encore 2 ans, ça a commencé en 48, les massacres de Palestiniens. Et depuis, il y a eu au moins 150 000 morts. Ça fait 77 ans qu'ils en chient. Hein, les gens qui ont découvert la tragédie palestinienne avec Netanyahou, à mon avis, c'est les mêmes qui ont découvert le rap avec Orelsan. T'as envie de leur mettre des petites claques comme ça? Ça existait avant! D'ailleurs, on sent qu'il est débutant, Macron, parce qu'il n'utilise pas les bons mots. Crime contre l'humanité, génocide, nettoyage ethnique. Lui, il est là. Israël, ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est même, carrément, c'est mal. Faut pas.
Merci, au revoir, à bientôt. À l'écoute de Radio Galère.